Bonjour à toutes et à tous. Pour ne pas prendre de retard, je pense que nous allons commencer cette journée que je vais introduire. Donc, une journée organisée par le Centre de victimologie pour mineurs, dont j'ai le grand honneur d'être la présidente. Je voulais remercier toutes les personnes présentes à cette réunion. Donc, nous allons parler des agressions sexuelles sur mineurs et principalement de la question des liens entre auteur et victime au long de cette journée avec donc une intervention du CVM proprement dit du Centre de victimologie pour mineurs pour introduire la journée. Ensuite, nous donnerons la parole aux enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs de Paris, que je remercie beaucoup d'être avec nous. Vous aurez ensuite, dans la matinée, une intervention de Madame Fèvre, qui a été longtemps présidente de cour d'assises, que j'ai connue à Chartres. Et ensuite, Maître Perlemutter, qui est avocat et à l'antenne mineur du barreau de Paris et que je remercie aussi d'avoir accepté notre invitation, sachant que nous avons des liens très étroits avec cette antenne mineure du barreau de Paris. Alors la situation actuelle, l'actualité est un petit peu particulière, donc vous avez reçu en arrivant ce petit fascicule qui est le livre des résumés de la journée. On vous demandera de le présenter à chaque fois que vous souhaitez rentrer dans l'espace Reuilly, parce que c'est une obligation eu égard au plan Vigipirate attentat qui est en vigueur actuellement. Donc même pour fumer une cigarette, ce qui peut tout à fait se concevoir, vous devez, quand vous revenez, présenter ce fascicule. Voilà, on vous le demandera à l'entrée, c'est un peu le sésame de la journée, en fait. Voilà. Donc, un grand merci à toutes et à tous, et je crois que nous allons commencer cette journée.
Voilà, ben, bonjour à tout le monde. Je vais, sans perdre de temps, pour que nous puissions respecter le timing, céder la parole à mon collègue et ami Paul Messerschmitt, à Caroline Ray et à Mélanie Dupont pour que ils puissent vous présenter le centre de victimologie pour mineurs qui est donc une structure transversale qui a plusieurs années d'existence maintenant et qui a donné naissance à ce genre de journée auquel nous vous avons conviés.
Merci à Gilbert Villa, qui a été le premier président du Centre de victimologie pour mineurs lors de sa création en 2008. Donc, nous travaillons au sein de l'unité médico-judiciaire pédiatrique, qui a été initialement créée à l'hôpital Trousseau en septembre 2003 et qui a toujours entretenu des liens très privilégiés à la fois avec le parquet des mineurs de Paris et la Brigade de protection des mineurs de Paris, parce que, en matière sexuelle notamment, nous avons un seul interlocuteur policier à Paris, c'est la Brigade de protection des mineurs de Paris. Donc, nous avons beaucoup échangé au cours de cette dizaine d'années avec eux. Et nous avons dû quitter Trousseau en 2010 pour rejoindre l'Hôtel Dieu, l'UMJ adulte qui se trouvait à l'Hôtel Dieu. Bien heureusement, nous avons pu intégrer les locaux avec toute l'équipe de Trousseau, donc nos infirmières que je salue ici, notre secrétaire, nos médecins. Donc nous avons pu garder l'équipe que nous avions formée à Trousseau. Alors, il faut savoir que UMJ pédiatrique, c'est la seule de ce type en France, puisqu'il y a bien sûr des unités d'accueil des jeunes victimes avec des auditions des mineurs victimes sur le site hospitalier, mais nous avons toujours voulu séparer, nous, les auditions policières des constatations médico-légales. Et en plus, nous sommes aujourd'hui à l'Hôtel Dieu à peu près 200 mètres de la brigade de protection des mineurs de Paris, donc nous sommes vraiment extrêmement proches. Et les mineurs sont reçus exclusivement sur réquisition judiciaire. Nous recevons chaque année environ 800 mineurs victimes de coups et blessures volontaires ou involontaires, comme dans les accidents de la voie publique. Environ 200 victimes de violences sexuelles en tout genre. Et le docteur Messerschmitt reçoit sur réquisition aussi pour des expertises pédopsychiatriques 100 mineurs victimes, essentiellement en provenance là aussi de la brigade de protection des mineurs pour des affaires sexuelles.
On va se présenter rapidement. Caroline est médecin légiste, c'est la légiste et la patronne. Ce que nous essayons tous d'avoir, à la fois, mais je le dis pour elle, est l'excellence du généraliste et du spécialiste, c'est-à-dire qu'elle est pédiatre, elle fait à la fois une médecine générale, une pédiatrie, et elle possède ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire ce rôle de liaison très sensible avec la loi, les procédures, les règles, la brigade des mineurs, le procureur de la République, le parquet des mineurs, et elle est un recours permanent chaque fois qu'on a, en même temps que nos médecines, à gérer la règle et la loi.
Pour le coup, moi, je vais présenter Paul Messerschmitt, qui est pédiatre, pédopsychiatre, qui a longtemps été donc le chef de service de l'hôpital Armand Trousseau, où Gilbert Villa est aujourd'hui maintenant a pris la relève depuis un certain nombre d'années. Donc, il fait effectivement les expertises pédopsychiatriques au sein de l'unité médico-judiciaire, mais on va dire oui, une longue carrière, on va dire. Hein. On peut dire ça comme ça.
Alors Mélanie Dupont, nous l'avons connue bébé. C'est notre bébé des UMJ, puisqu'elle est venue en stage en 2005 à Trousseau, à l'UMJ pédiatrique, et on devait prendre une stagiaire en cette année-là, et on s'était dit, faut pas qu'on prenne une trop jeune, parce que faut avoir un peu d'expérience pour s'occuper quand même des mineurs victimes, etc. Donc avec mon infirmière péricultrice, on a reçu un certain nombre de candidates. Il n'y avait pas de garçons, hein, on a reçu que des candidates. Et ma foi, on a pris la plus jeune, alors qu'on pensait pas du tout la prendre au départ, parce que c'était celle qui nous paraissait la plus motivée, la plus curieuse, et ça ne s'est pas démenti. Mélanie est aujourd'hui psychologue, elle a un poste aujourd'hui de psychologue temps plein à l'UMJ, et elle s'occupe hors procédure judiciaire de l'orientation, du soutien des mineurs et de leur famille, avec Marianne Sanchez, qui est psychologue aussi et qui, j'espère, intégrera très bientôt l'UMJ adulte, et donc elle forme un binôme très précieux dans la prise en charge. Vous savez combien c'est difficile à Paris d'avoir un rendez-vous en zone publique pour un soutien psychologique. Il faut parfois attendre des semaines, voire des mois. Eh bien, je les remercie d'avoir monté cette consultation hors procédure judiciaire pour soutenir les mineurs victimes et leurs familles.
Juste un mot pour dire que dans une journée sur les interactions, il me semble important, par exemple, entre nous trois qui sommes là à cette table, d'avoir trois générations différentes. Et je crois que vis-à-vis des problèmes qui se posent à nous quotidiennement, ces dimensions de recul, de distance ou de fraîcheur et de modernité sont essentielles.
Pour vous présenter un petit peu notre population et notamment là ce qui va nous intéresser, les liens auteurs-victimes, on a fait une recherche épidémiologique sur 3 années, de 2008 à 2011, une recherche qui a été soutenue par la Fondation Pfizer pour la santé de l'enfant et de l'adolescent. 3 années durant lesquelles on a rencontré donc 635 victimes présumées de violences sexuelles, présumées parce que donc nous sommes dans le cadre de l'enquête, le jugement n'a pas été fait, donc on part du principe que c'est des victimes présumées, qui nous ont permis d'obtenir en tout cas un certain nombre de données, notamment au niveau social, scolaire, médical, avec notamment les conséquences médicales, les conséquences psychologiques, et ce qui permet justement d'avoir un petit peu au niveau des faits aussi, au niveau de la révélation qui nous est assez chère, de bien comprendre tous ces processus-là, qui a permis, et là je vous mets juste une petite diapo d'un point de vue quantitatif, pour bien mettre en termes de violences sexuelles, en tout cas notre population à nous, donc c'est vrai que c'est une population particulière puisqu'elle est inscrite dans une procédure judiciaire. On retrouve les données des recherches internationales, à savoir que la majorité des agresseurs sont de sexe masculin. Je vous ai mis un peu la diapo trop tôt, mais d'un point de vue global, on a la moitié des agressions qui sont dans le cadre, qui déroulent dans le cadre intrafamilial et moitié dans le cadre extrafamilial. Et on voit que ça change, en fait, en fonction de l'âge des victimes, puisque plus la victime est jeune et plus les agressions se déroulent au sein de la famille. Et avec les adolescents, on a quasi exclusivement, en tout cas plus quasiment 90% d'agressions qui se passent en dehors de la famille. D'un point de vue global, quand même aussi vous dire, et c'est vrai que ça, alors on le répète, mais parce qu'on a toujours eu, c'est aussi ça, fais attention à l'inconnu, etc., on retrouve quand même c'est des chiffres intéressants, à savoir que seulement 15% des agresseurs sont inconnus des victimes. 15% c'est peu, donc la plupart sont connus des victimes, et ça c'est vraiment intéressant, enfin important à prendre en compte justement dans le lien auteur-victime. Alors vous dire aussi au niveau des agressions en réunion qui augmentent en même temps que l'âge des victimes, et la question de la différence d'âge auteur-victime, effectivement les adolescents ça concerne plus des choses entre adolescents, et quand on est plus, les victimes sont plus jeunes, ça concerne plus effectivement comme on est dans l'intrafamilial des victimes plus âgées. Là, c'était juste pour vous donner un petit aperçu, en tout cas de données chiffrées. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est aussi à la fois de cette recherche-là et surtout de notre pratique, de pouvoir vous donner un peu une certaine typologie des liens qu'on a un petit peu élaborés.
Alors, on a évidemment proposé de se retrouver autour de regroupements, bien sûr, des situations. Le lien humain perverti, c'est le prédateur et la victime innocente et naïve. Le lien familial perverti, tout va tourner autour des choses incestueuses et incestuelles. Le lien amoureux perverti, c'est beaucoup plus des joutes amoureuses qui dévient ou qui se dévoient ou qui vont poser problème. Le lien social perverti, Caroline l'évoquera, c'est tout de même des allégations hasardeuses, fausses ou en tout cas en marge de la réalité. Donc je démarre sur le lien humain perverti en disant que c'est au fond, si on a voulu travailler sur le lien et l'interaction, c'est l'absence de lien. C'est le non-lien, c'est l'acte déshumanisé, le prédateur est conscient, la victime est naïve, quelles que soient les circonstances des faits. La prédation signifie un sens unique, l'auteur s'empare de la victime sexuelle comme d'un objet. Ces choses-là sont bien connues, bien étudiées, c'est une rupture interhumaine, l'auteur sait que sa victime ne sait pas. Alors bien sûr, préméditation le plus souvent, mais parfois aussi, alors un hasard, ou en tout cas une circonstance pour les deux, c'est-à-dire quelquefois une circonstance unique où il y a eu irruption d'une pulsion qui se déchaîne à la faveur d'une désinhibition, souvent aussi un joint alcool toxique, quelques soumissions chimiques. Les auteurs sont essentiellement majeurs, voire âgés, mais quelquefois des adolescents durs, très durs. Les victimes sont de tous âges, y compris quelquefois adultes. Ici, c'est donc la distance psychologique entre l'auteur et la victime qui fait l'authenticité du drame. Alors, je voudrais évoquer 3 points de réflexion personnelle. Dans le cours de cette humanité, la pulsion de mort et la pulsion sexuelle, c'est-à-dire la sexualité agie, n'ont guère évolué, selon moi, depuis la préhistoire, au regard de la civilisation. Le deuxième point, c'est que du côté d'une écologie responsable, on ne peut pas programmer la réintroduction des loups dans nos régions sans programmer aussi un vrai souci des brebis. Le troisième point est que du côté des victimes comme des auteurs, il est temps de passer à une philosophie du conscient, une psychologie du conscient, une psychologie de la conscience, une psychologie des réalités. Que les auteurs, comme les victimes, prennent une vraie conscience des dangers, le risque de soi autant que le risque de l'autre. Le risque de soi autant que le risque de l'autre. Les auteurs prennent conscience de leur débordement et de la peur qu'ils provoquent, et puis les victimes, bien sûr, pour apprendre à savoir, anticiper, éviter, fuir, à prendre le courage. Et cette petite fille, bien sûr, là, alors, d'un policier, donc peut-être éduqué, qui prend l'ascenseur pour rentrer chez sa grand-mère, c'est son père qui la dépose en bas d'un immeuble du 12e arrondissement, tout à fait bien. Elle prend l'ascenseur, un homme se précipite derrière elle, et dans l'ascenseur, et il essaye de l'agresser. Cette petite fille de 11-12 ans va crier, pleurer, taper, donner des coups de pied, se défendre, tenir ses vêtements, à tel point que cet homme prend peur, la porte s'ouvre, il fiche le camp, elle fonce sur la grand-mère, elle lui raconte tout de suite, elle lui révèle tout de suite, la grand-mère appelle la police, et une heure après, l'homme est retrouvé, donc le courage est important, et c'est dommage qu'on ne parle pas suffisamment du courage dans le vocabulaire de la psychologie. À l'inverse de là, le lien familial perverti, c'est au contraire un lien extrêmement serré, et là, qu'il soit familial ou familialisé, on pense aux pères, aux oncles, aux beaux-pères, etc., mais aussi au grand-père ou à l'ami de la grand-mère ou à ses amis de la famille, là, c'est un lien très proximal qui se resserre et qui se dévoie. Bien sûr, l'inceste de la part de l'adulte, c'est l'emprise pour la victime, et ici, on a au fond une double préméditation, le prédateur, par sa conscience de s'emparer physiquement de l'innocence et aussi de son mépris des enjeux liés aux liens familiaux. Et ailleurs, et on le voit assez souvent, la victime devient la maîtresse ou la femme à la maison. Mais il peut s'agir aussi de circonstances uniques, plus hasardeuses, plus circonstanciées, un débordement passager des défenses qui craquent à un moment donné. On voit aussi, bien sûr, des incestes de fratrie au sens large, et là aussi, nous voyons des situations extrêmement diverses entre des apprentissages de la sexualité à partir de jeux enfantins, souvent une part de complicité jusqu'à un certain point, voire la création d'un couple, et là, on a une emprise de type adulte. Alors, je veux dire que l'expertise ne fait pas de choix. Je suis de ceux qui acceptent l'intérêt d'une expertise de l'auteur et de la victime par le même expert. Chacun peut évidemment faire ce qu'il veut. Mais je pense que l'intérêt de cela est de rentrer dans une compréhension plus intime de ce qui rapprochait, de ce qui faisait un lien, bien sûr, faillible et vulnérable, mais ce qui permet de comprendre. Et devant les jurés, il me semble que c'est important que la victime, que nous puissions dire ce qu'a dit la victime au sens d'un raisonnement de la conservation de certains liens, soit pour le faire jouer sous la forme d'une aggravation de l'emprise de l'auteur, soit pour faire respecter ce que auteur et victime ont le droit de sauvegarder et de ne pas détruire de leurs liens. Et juste un mot, ce fils de 16 ans qui subissait depuis des années des assauts sodomiques de son père tous les mercredis quand la mère allait travailler, un très bon milieu. À un moment donné, 16 ans, première, un type absolument top, dit à sa mère, les choses ressortent, on vient nous voir, et ce garçon était capable de dire, c'était il y a 25 ans, je suis désolé, donc. Et il nous disait, je ne veux pas qu'on fasse de mal à cet homme, je ne veux pas qu'on touche à cet homme, je ne veux pas de police, je ne veux pas de jugement. Il est mon père, il est un père, je veux que cette chose s'arrête, mais j'aime, et il disait, j'aime faire des maths avec lui, j'aime aller courir avec lui, j'aime... Bon. Et donc, il était capable de sectoriser complètement les choses. Bon, il y a 25 ans, je pense qu'on a géré les choses comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a quand même fait un signalement.
Concernant le lien amoureux perverti, alors là, effectivement, on va être beaucoup plus justement dans une vraie rencontre amoureuse de la part de la victime, mais aussi parfois de l'auteur. Un lien amoureux, mais qui va avoir deux destinées. Alors c'est vrai, concernant les âges, on est plus là au niveau de l'adolescence. On va avoir potentiellement une découverte sexuelle qui va être non souhaitée, ou en tout cas pas comme ça. De l'acte sexuel vient, surprend, avec parfois aussi du côté là des filles une découverte de la désinhibition masculine qui vraiment vient choquer. Et donc ça, c'est déjà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va avoir aussi tout ce qui est des relations sexuelles abouties. Donc on a des relations sexuelles, mais à un moment donné, alors soit dans l'immédiateté ou souvent dans l'après-coup, on a une relecture des faits. Et la personne va être blessée. Et là, généralement, d'ailleurs, dans ce discours-là, on entend plus la question des attitudes, des mots, que l'acte sexuel lui-même. C'est il m'a mal regardé, il m'a dit t'es une pute. Enfin, et c'est plus ça qui va venir choquer. Et c'est plus ça qui va après faire d'ailleurs qu'on peut arriver à porter plainte. Ça même qui peut faire violence, voire trauma. Là, on retrouve aussi tout ce qui est prise de risque, avec notamment alcool, internet, ou une recherche, une découverte d'une sexualité. Et alors, on pourrait parler d'apprentissage maladroit, mais en tout cas, dans ces situations-là, on se rend compte que, pour le coup, le risque est assez partagé. Ce qui va être d'ailleurs tout au niveau du travail avec après les victimes, un autre travail. Donc là, l'âge des victimes est beaucoup plus rapproché. Et là, plainte et procédures judiciaires viennent surtout mettre en jeu la question de la morale, de la trahison, des principes, de l'honneur, qui vont primer sur le préjudice sexuel. Par exemple, Mathilde qui a 15 ans, qui a fait la connaissance d'un jeune homme, elle n'a jamais eu de petite amie auparavant, elle fait la connaissance d'un jeune homme qui travaille dans son quartier, elle pense qu'il a quelques années de plus qu'elle, mais bon, pas beaucoup plus, ils se parlent, ils se retrouvent autour de cafés, ils discutent, dans son discours, on l'entend bien, et elle le décrit comme ça, elle décrit, enfin, il y a un vrai jeu de séduction, un vrai flirt, sauf qu'un jour, il lui propose d'aller se promener, de monter dans un appartement pour aller chercher des clés. Bon, et là, elle sent bien que l'ambiance change et il lui impose des attouchements. Elle décrit pas les biens par la suite, d'avoir des symptômes, boulimie, déprime, irritabilité. Et pendant un an, elle garde ça pour elle. Non, c'est moins d'un an. Sauf qu'en fait, il y a un jour où elle découvre que cet homme, il a une compagne et que pendant qu'il y avait ce jeu de séduction, il avait cette compagne-là. Et en fait, on se rend compte, et là, donc moi, je la vois au bout d'un an, et toute sa problématique va pas tourner autour de l'acte sexuel, mais va tourner autour de la trahison. C'est la question de l'abus de sa confiance, l'abus physique. C'est qu'elle elle a été amoureuse de cet homme et il l'a trahi. Et c'est vrai que là, on est la plainte, en tout cas, c'est vraiment une mise sur la scène publique d'un conflit très interne. Alors, on pourrait se dire de sortir d'une certaine passivation, mais en tout cas, elle dit bien et elle le répète. Alors, je veux qu'il soit jugé coupable, mais qu'il n'y ait pas de sanction vis-à-vis de lui. Et elle le dit, s'il s'était excusé, on n'en serait pas là. Donc, c'est vrai que c'est là, après, où c'est très compliqué pour le travail, pour le coup, tant de la police, parce que ils peuvent pas répondre à ça. En tout cas, c'est pas l'objectif, mais d'un point de vue psychique.
Et donc, concernant les fausses allégations d'agression sexuelle, vous savez que les professionnels de santé, notamment, mais les professionnels de l'enfance en général, sont régulièrement confrontés à des fausses allégations de la part de jeunes enfants dans le cadre d'une séparation familiale conflictuelle. Ces situations sont très difficiles à appréhender parce que, d'une part, ces enfants étant très jeunes, parfois moins de 4-5 ans, le recueil de la parole de l'enfant est extrêmement compliqué à recueillir, et que, d'autre part, l'examen génital que pour lequel on nous sollicite est vraiment pratiquement toujours normal. Donc, il y a, c'est vrai, des vraies allégations, des allégations consistantes dans des cas de séparation conjugale conflictuelle, mais il y a aussi, on le sait, des fausses allégations pour obtenir par un des parents l'éviction de l'autre parent, tout simplement. Mais je dirais que ces fausses allégations sont pas l'apanage des jeunes enfants et que nous sommes confrontés aussi à des fausses allégations, pas exceptionnelles, chez les adolescentes, Alors bien sûr, on peut parler de fausses allégations qu'au terme de l'enquête, hein, bien sûr, et je vous ai dit, ce dialogue que nous avons avec la brigade des mineurs nous permet d'avoir des retours de certaines affaires, comme celle de Christelle. Christelle, elle a 14 ans, elle va à la brigade des mineurs avec sa mère pour dénoncer des faits de viol 3 semaines plus tôt. Alors, ce qui est frappant dans l'histoire de Christelle, c'est qu'elle ne peut pas expliquer vraiment ce qui s'est passé. Tout est un peu flou. Elle explique qu'elle est allée chercher chez un ami d'un ami, mais elle ne sait pas qui, décédé. Elle ne se souvient pas de l'adresse. Elle ne se souvient même pas de la station de métro à laquelle elle est descendue pour aller chez le copain. Donc tout ça est un peu flou, un peu inconsistant. Et elle dit que ben voilà, elle a un retard de règles et que elle a des nausées matinales, une tension mammaire et donc elle pense être enceinte. Et Christelle va être examinée aux UMJ. Effectivement, on va confirmer la grossesse, mais on va apprendre après, plus tard, parce qu'évidemment, la brigade des mineurs, elle se contente pas juste qu'on lui dise que. Il s'est passé ça, il va y avoir une enquête d'environnement sur les copains, copines, etc. On va savoir que Christelle avait un petit copain et qu'en fait, elle a eu des relations sexuelles consenties, mais à l'insu de ses parents, je dirais. Et pour expliquer la grossesse, ben, on fait passer ça sur un viol, quoi. Voilà. Donc, est-ce que les adolescentes n'imaginent pas toutes les conséquences que va avoir leur dénonciation comme ça des faits? Alors on voit ça donc pour masquer des relations sexuelles consenties, hein, ces fausses allégations, elles sont quand même l'apanage des filles, hein. On a un garçon dans notre série, c'est tout. Pour expliquer une grossesse, pour justifier une absence du domicile alors que on devait rentrer, plutôt que de se faire engueuler, on va se faire plaindre, hein, si on dit qu'on a été victime d'agressions sexuelles sur la roue en rentrant. Ça peut être aussi pour attirer l'attention sur soi, on a déjà rencontré ce type de situation, ou enfin pour se venger parfois, il y a des adolescents qui m'ont déclaré cette chose-là. Alors le travail d'équipe, on a mis la réquisition dans le travail d'équipe parce que pour nous, notre équipe, elle va assez loin, elle va jusqu'au quai de Gesvres, hein, jusqu'à la brigade des mineurs. Pour nous, ils font un peu partie de notre équipe. J'espère qu'ils m'en voudront pas de dire ça. Donc, à la brigade des mineurs, c'est eux qui vont recevoir le jeune ou la jeune initialement et ses parents, et nous adresser une réquisition pour examiner le mineur sur le plan somatique et ou pédopsychiatrique. Alors, on vous montrera dans quelques minutes deux films qui ont été réalisés par le Centre de victimologie pour mineurs et qui sont diffusés à la Brigade de protection des mineurs avant de venir aux UMJ, donc pour montrer justement aussi là ce lien qui existe entre nos équipes. Et pour vous dire que l'examen physique, normalement, est réalisé, en tout cas, on essaye, quand c'est dans le même temps, de faire la pédopsie d'abord, parce que l'examen somatique, on va un petit peu s'occuper des organes génitaux et on a peur que ça pollue un petit peu ensuite le discours de l'enfant avec le pédopsie. Donc quand on doit faire les choses dans le même temps, parce que c'est urgent, on fait le pédopsie d'abord. Alors on a un accueil infirmier absolument exceptionnel aux UMJ, des filles motivées et des garçons, quelques garçons plus de filles, motivées, compétentes, soucieuses du mineur et de sa famille. Et on fait toujours ça en binôme, c'est-à-dire qu'il y a toujours, pendant l'examen, pédiatre ou médecin légiste et infirmière, ce qui est essentiel pour veiller aussi à l'état psychologique de la personne que nous devons examiner. Voilà, je vais pas vous faire un topo sur l'examen médical des victimes d'agressions sexuelles, puisqu'aujourd'hui on travaille essentiellement sur le lien, et je vais passer la parole à Paul Messerschmitt concernant la partie expertise pédopsie.
Très rapidement, bien sûr, je vois essentiellement des mineurs de tous âges, mais des majeurs aussi, chez lesquels des problématiques et des faits se sont passés au cours de leur minorité. Alors l'expert psychiatre, bien sûr, propose à la victime de l'entendre d'abord sur elle-même, mais c'est vrai aussi beaucoup sur la représentation de la réalité de l'auteur, entendre sa version de la rencontre, des liens, avant, pendant et après les faits, et comprendre ce qui a rapproché au sens d'une définition des responsabilités relatives de la victime et de l'auteur. Quand je dis ça, c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que chacun a à porter. Qu'est-ce que chacun porte de la chose vécue ensemble. Mais alors, quelle que soit cette notion de risque partagé relatif, on travaille beaucoup de manière psychologique, humaine, là encore sur, bien sûr, la notion de l'ego, du respect de l'ego, mais aussi d'une réparation en lui des choses. Et que là, la notion de responsabilité est absolument psychologique, est absolument indépendante de la dialectique des culpabilités. Et ainsi, je crois qu'on doit arriver à traiter de manière indépendante, je dis bien indépendante, sereine, les notions de faute, de culpabilité et de responsabilité. Voilà en gros l'âme de la séance experte.
Et concernant le soutien psychologique, alors c'est vrai qu'on a une consultation psychologique là qui est ouverte depuis une année. Caroline vous disait tout à l'heure hors procédure, et c'est vraiment ça qui est important, c'est que les gens viennent à l'UMJ pour, dans le cadre de l'enquête de police, ils viennent pour des examens médico-légaux. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un lieu où on peut, j'ai envie de dire, les choper. C'est-à-dire de pouvoir se dire, ben voilà, ils sont là, je vais vivre un moment de fragilité particulière. Pour certains, ils n'ont jamais rencontré de psy, jamais rencontré même de médecin, enfin, pédiatre, effectivement. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de choses particulières, et notamment, même des fois, pour d'autres choses que ce qui les amène à l'UMJ. Donc c'est vrai que ça va être le temps d'une évaluation, de voir un petit peu comment ils vont, d'orienter si besoin, et après il y a cette question de soutien. Alors c'est vrai que on a une démarche assez proactive, dans le sens où, je les rappelle, médecins et infirmières leur proposent lors de la consultation médicale de dire, ben voilà, on a une psychologue, si vous voulez, elle vous rappelle dans quelques temps. Généralement ils acceptent, et c'est vrai que les réactions sont assez diverses, mais tout intéressantes de voir quand on les rappelle ce qui peut se dire, que ce soit des fois que du soutien téléphonique ou des gens qui veulent vraiment venir nous rencontrer. Alors c'est vrai que ce soutien-là, on l'a vraiment pensé dans justement toujours cette continuité. Enfin, on vous montrera les guides tout à l'heure. C'est les mêmes, par exemple. C'est des choses peut-être un peu banales, mais qui nous semblent importantes. Par exemple, les guides qui reçoivent à la BPM ont la même infographie que les guides qui présentent la consultation. Enfin, donc de bien voir que en tout cas les professionnels ont pensé les choses et vraiment englobent, contiennent un peu justement les contiennent et la procédure. Un travail avec les familles, j'ai bien mis les parents, et ça nous est vraiment cher, et c'est pour ça que, oui, Caroline, vous parlez tout à l'heure de ma collègue Marianne Sanchez, puisqu'en fait on est deux, et c'est ça qui nous semble important aussi. Moi je vois les mineurs, elle voit les parents, et on se rend bien compte aussi là l'importance du soutien des parents, avec tout le questionnement qu'ils peuvent avoir. Les préoccupations, les inquiétudes, et des fois le propre trauma aussi qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vrai que nous, c'est j'ai envie de dire, on a une approche très familialiste, mais pour pouvoir accompagner au mieux ces jeunes, et on espère en tout cas que ça peut être l'occasion d'un début de travail, en tout cas au niveau de la réparation thérapeutique, mais qui viendra bien évidemment par la suite, mais en tout cas qu'on puisse être un socle, une première pierre peut-être par rapport à ça. Et c'est vrai que, juste pour terminer, enfin, même si on rencontre, je vous disais familialiste, enfin, on rencontre l'individu. Moi, dans ma consultation, je vois l'enfant, je vois ses parents, mais c'est vrai que souvent c'est que l'enfant. N'empêche que notre travail, c'est aussi beaucoup justement de travailler les liens. Souvent, enfin, et notamment dans le cadre intrafamilial, c'est vraiment cette question du travail psychologique, c'est le travail des liens. Et Paul le disait très bien tout à l'heure, On peut, beaucoup de victimes nous disent bien, voilà, il m'a fait ça, il m'a fait du mal, n'empêche que je l'aime. Et c'est ça qui est très compliqué et très complexe à travailler et à intégrer aussi pour et à vivre avec pour la victime. Donc juste, on va vous présenter donc ces deux fils. Alors, on en a quatre en tout. On en a quatre différents. Pourquoi ? Parce qu'on a fait en fonction des âges des victimes. Donc on a un film à destination des enfants, des plus jeunes, des très jeunes. Un film à destination des ados que je vais vous présenter là. Et après, pareil, pour les parents, on a à la fois un film parents d'enfants et un film parents d'adolescents, aussi parce que l'examen somatique n'est pas le même. Donc on n'utilise pas la même chose et c'est important de pouvoir spécifier. Alors c'est très très court. L'objectif, c'est de faire vraiment de là, on a visé l'anxiété, donc de pouvoir rassurer sur des messages assez forts pour que justement ils puissent... le temps de latence entre l'audition et l'examen, qui des fois peut être très rapide comme assez aussi, enfin quelques jours, qui puisse rassurer tout le monde et notamment leur enfant. Donc là, c'est le film à destination des adolescents.
Bonjour, voici Léo et Anna. Comme toi, ils sont venus à la brigade de protection des mineurs raconter ce qui leur est arrivé. Ce petit film va t'expliquer le déroulement de l'examen médical qui va suivre à l'hôpital. Une infirmière t'accueillera et pourra répondre à tes premières questions. Elle sera avec toi tout au long de l'examen. Tu seras ensuite reçu par le médecin qui t'examinera et recherchera si tu as des blessures. Tu seras accompagné ou seul, comme tu préfères. L'entretien est confidentiel. L'examen est sans douleur. Tous les gestes seront expliqués et faits avec ton accord. Et si tu ne souhaites pas que l'on t'examine, tu pourras en parler. Le but de l'équipe médicale, c'est de savoir comment tu vas, physiquement et moralement. Le médecin n'est pas là pour juger, mais pour t'aider et discuter des choses importantes pour toi. Le rapport du médecin sera transmis au policier afin de permettre à l'enquête de suivre son cours. Si tu as des questions, tu pourras revenir ou rappeler l'équipe médicale. Ils sauront t'aider et t'orienter. Au revoir et n'hésite pas à aller sur notre site internet.
Donc ça, c'est le premier film. Et je vais vous montrer juste pour vous bien vous montrer la différence aussi. Alors là, le film à destination des parents d'enfants. Et après avec le guide, tout à fait.
Bonjour. Le film qui va suivre va vous expliquer le déroulement de l'examen médical de votre enfant à l'hôpital. Il sera examiné par un médecin spécialisé qui va rechercher d'éventuelles blessures physiques sur les régions du corps qui ont pu être concernées par l'agression. L'infirmière vous accueillera avec votre enfant et répondra à vos questions. Le médecin vous recevra seul avant la consultation. Vous pourrez alors lui faire part de vos interrogations. Pendant ce temps-là, l'infirmière restera jouée avec votre enfant. L'examen est rapide et sans douleur. Vous pourrez y assister en totalité. Il est très différent d'un examen gynécologique adulte et il est adapté à l'âge de votre enfant. Il n'utilise pas les techniques que vous connaissez. Chaque geste sera expliqué et réalisé avec votre accord et celui de votre enfant. Pendant l'examen, si vous avez des questions, le médecin y répondra et vous donnera les résultats au fur et à mesure. L'équipe médicale est constituée de professionnels spécialement formés à ce type d'examen. Ils seront attentifs au bien-être physique et psychologique de votre enfant. Le rapport de l'examen sera transmis au policier afin que l'enquête se poursuive. Si vous avez des questions, vous pourrez recontacter l'équipe médicale. Ils sauront vous aider et vous orienter en cas de besoin. Tout comme celui-ci, nous avons réalisé un autre film pour votre enfant. Cette vidéo est adaptée à son âge et permet de le rassurer sur le déroulement de la consultation. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Au revoir.
Donc ces films-là, voilà, sont visionnés au sein de la brigade de protection des mineurs. Alors c'est vrai que pour le coup, on a eu recours justement à une agence digitale qui a permis de faire ce niveau-là. Certains policiers étaient avec nous, toute l'équipe, bien évidemment, du centre de victimologie. Et donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est juste un exemplaire du, des guides que nous avons fait aussi, c'est-à-dire qu'il y a le film, mais après, ils repartent aussi avec un guide qui reprend exactement les mêmes choses que dans le film. C'est-à-dire qu'à la fois, bon, le film a fait, on espère en tout cas que ça change un petit peu par rapport à l'audition. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir là le relire tranquillement à la maison, sans l'effervescence de tout ce qui se passe, et de reprendre un petit peu ces choses-là. Et la partie gauche, en plus, c'est justement là la question du lien, c'est que c'est une partie que le parent explique aussi à son enfant. Je vais laisser Paul Messerschmidt conclure.
Très rapidement. Vous avez compris que dans notre éthique, l'interaction, le réseau, qu'il soit familial ou social ou interpersonnel, professionnel, sont des choses importantes. Donc c'est vrai que l'expertise nous demande, notamment en pédopsie, mais en somatique, la vérité d'une personne. Mais c'est vrai qu'on est immédiatement concerné par les liens, par les vérités multiples, par les choses multiples. C'est vrai qu'on prépare ainsi, et durant l'expertise, on prépare à la réalité de confrontation d'abord de soi avec soi pour la victime, de soi avec l'image des autres, réputation, etc. Victime et auteur aussi, la confrontation de l'enquête, et pourquoi pas, au moment des assises, la grande confrontation terminale. C'est vrai qu'on est des soignants qui ne soigne pas, mais on reste rempli de la notion de réparation. C'est vrai que les victimes demandent à la loi le 3-en-1, c'est-à-dire la réparation morale, judiciaire et psychologique. On s'inscrit, nous, dans cette procédure, et c'est vrai que cette notion de réparer non seulement les égos, mais éventuellement les liens, est quelque chose d'important. Enfin, et j'en termine, la resocialisation aussi bien par la reconsidération par la victime des interactions entre elle et l'auteur, et on voit encore une fois des adultes de 25-30 ans qui signifient ce parcours. Enfin, bien sûr, le réinvestissement d'autres liens amoureux, familiaux, passionnels, et on est concerné évidemment par tout ça.
Merci.